Audiolib présente La patience du diable de Maxime Chatham. Lu par Sylvain Agaès. À tous ceux qui m'ont appris à me structurer, mes parents, ma famille, mes professeurs, mes amis et ma femme. Vous êtes les briques de ma maison, et lorsque le vent souffle fort dehors, c'est grâce à vous que je dors au sec chaque nuit. Ils sont là, tout autour de nous. Ils s'organisent, dans l'ombre, dans le silence. Ils sont invisibles, et nous n'avons pour les traquer que l'empreinte de leur existence, leur crime. Joshua Brolin. La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Charles Baudelaire. Prologue. La situation manquait cruellement d'excitation. Et Sylla le regrettait profondément. Il s'était fait toute une histoire de cet instant. Il avait attendu avec impatience ce jour, ce moment, trépignant comme un enfant la veille de Noël, pour ne finalement ressentir qu'un soupçon de joie. Pierre, lui, était ravi. Ses yeux brillaient, et un rictus presque idiot ne quittait plus ses lèvres depuis leur arrivée dans la gare Montparnasse. En même temps, c'était lui le plus enthousiaste depuis le début, lui qui avait le moins rechigné à se lancer, et il en éprouvait la plus grande fierté à présent. Sylla se posta sous le panneau des départs, au milieu des effluves de viennoiseries chaudes. Il n'eut pas à chercher longtemps leur train. Il s'affichait en grosses lettres, et la destination, Hendaye, brillait comme la promesse de longues et paisibles vacances, la promesse d'un repos mérité. Total. Ce n'était pas vraiment des vacances, corrigea-t-il silencieusement. Mais c'était tout comme. La voie était déjà indiquée. Il donna une bourrade à Pierre et lui désigna le panneau. Celui-ci, absorbé par la contemplation de la foule déjà massive qui remplissait le hall de la gare, sursauta. Viens, le train est là. Les deux adolescents hissèrent leurs lourds sacs sur leurs épaules et se frayèrent un passage au milieu des forces vives du pays en pleine migration quotidienne. En passant devant un kiosque à sandwich, Pierre s'arrêta pour acheter une bouteille de jus d'orange, non sans avoir au préalable taxé de l'argent à son compagnon. Il était assoiffé et la vida d'une traite, tandis que Sylla en faisait de même avec une petite bouteille d'Evian qu'il laissa tomber sur le sol. Elle roula sur quelques centimètres, et il la regarda se faire happer par la machine à broyer du petit matin. Une Weston parfaitement cirée frappa dedans, la projetant sous la semelle d'un godillot de chantier, qui lui broya le bec, avant de l'expédier dans le flot grouillant. Elle rebondit contre le talon de Hug fourré, bien que ce fût le début du mois de mai, cela n'étonna personne sinon Sylla, et disparut dans le brassage de toutes ses jambes en mouvement. Une machinerie hypnotisante et à la dynamique implacable. Personne ne pouvait arrêter une telle énergie. Les deux adolescents se postèrent à l'entrée du quai, les bretelles des sacs leur sciant les épaules. Leur train était en gare, et ils chargeaient déjà ses cohortes de passagers. « Ça te fait pas un petit quelque chose ?» demanda Pierre, euphorique. Mis à part les couleurs chatoyantes du TGV, Sylla ne remarqua rien, ni en lui, ni à l'extérieur. Il était d'une placidité déconcertante, frustrante même. « Non, pas encore. »«
Tu déconnes ? T'es pas dingo, là ? Moi, je tiens plus en place. T'as pris le son ?»«
Oui, bien sûr. J'ai mon iPod chargé à bloc et mon casque. »«
Lunettes de soleil ?
Évidemment. »«
Crème solaire et capote ?»
Cette fois, Sylla fixa Pierre sans un sourire.
« Oh, ça va !» râla Pierre. « Putain, tu sais même plus te marrer !»